qui était assez intéressant, c'est de sortir les collections d'une façon de les présenter très, très muséale, mais au contraire qu'elles deviennent en même temps source d'une autre inspiration et qui amène un autre regard. Donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressé.
Voilà comment Gilles Aubagnac, conservateur au Musée de l'Air et de l'Espace, parle de l'exposition conçue par les photographes Damien et Pascal Perret au sein du musée à l'occasion du mois de la photographie du Grand Paris et qui se prolonge jusqu'au 11 juin. C'est Julie Chaise-Martin dans l'émission De l'art dans les oreilles et je vous emmène donc aujourd'hui au Musée de l'Air et de l'Espace où j'ai d'abord rencontré l'artiste Damien Perret, puis Gilles Aubagnac qui nous livre son regard de conservateur. Bonjour à tous, c'est Julie Chaise-Martin dans l'émission De l'art dans les oreilles et je suis aujourd'hui au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget en compagnie de l'artiste photographe Damien Perret. Bonjour Damien et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour.
Alors Damien Perret, vous présentez avec votre femme Pascal Perret une exposition au cœur du Musée de l'Air et de l'Espace à l'occasion du mois de la photographie. C'est une exposition qui s'intitule Latitude 48-93-33, chantier photographique sur le territoire d'un rêve. Alors Damien Perret et Pascal Perret, vous vous faites appeler les époupées désormais. Et c'est un événement assez extraordinaire parce que cette exposition que vous présentez, déjà, c'est la première exposition d'art contemporain au sein du Musée de l'Air et de l'Espace. Donc vous êtes les premiers artistes d'art contemporain à avoir eu la chance, je pense, d'aller dans les coulisses du musée, investir et regarder, observer les archives du Musée de l'Air et de l'Espace. Vous allez nous en parler. Cette installation, vous allez nous expliquer, Damien Perret, comment vous l'avez conçue. Je précise que l'exposition a lieu jusqu'au 11 juin. Vous êtes d'abord photographe, mais là, vous avez vraiment fait un travail beaucoup plus que photographique. C'est une enquête au cœur de l'histoire de l'aviation. Vous avez d'ailleurs repris d'anciennes photographies que vous aviez déjà réalisées dans le cadre d'une résidence à la Capsule au Bourget. Vous allez nous en parler. Et donc là, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, la genèse de ce projet.
Eh bien, nous avons en fait ouvert en 2014 un grand chantier photographique sur le territoire du bassin aéroportuaire du Bourget, invité par le conseil général et par la mairie du Bourget, par la capsule aussi. Et nous avons été en résidence pendant 2 ans à la capsule du Bourget, qui est un lieu de résidence photographique. Et donc, nous avons pu photographier 70 bâtiments qui ont un lien avec l'aéroport, 70 bâtiments patrimoniaux qui pouvaient être des maisons de pilotes, enfin de l'habitat ou en tout cas des usines qui avaient construit des avions ou qui avaient fabriqué des hangars pour avions. Voilà. Et nous avons pérégriné en fait et photographié tous ces bâtiments pour les chercheurs du Conseil général. Voilà.
Oui, et donc, c'était vraiment de mettre en valeur ce patrimoine architectural à côté duquel on passe souvent et finalement la mémoire et l'histoire de ce patrimoine architectural on l'oublie.
C'est ça, oui, c'est ça. Et puis aussi, il y a avec l'histoire du, enfin, l'innovation du Grand Paris, enfin les grands bouleversements du Grand Paris, évidemment, un certain nombre de ces bâtiments vont être détruits. Voilà. Et donc nous avons photographié des usines qui voilà, pour la dernière fois. Quoi, voilà.
Donc c'est garder la trace.
Garder la mémoire, voilà. Voilà. Et donc ça, c'était cette mission-là qui a donné lieu à une exposition là, en 2015 et ensuite à la capsule, justement, au centre André Malraux du Bourget. Et nous avons été ensuite invités par le Musée de l'Air et de l'Espace pour, à la suite de ce travail, pour venir travailler au musée. Voilà. Ils nous ont invités à venir un peu explorer les collections photographiques ainsi que les objets des collections et avec la volonté de vouloir transformer quelque chose au niveau de faire passer quelque chose au niveau de ce rêve de voler en fait parce que c'est vrai qu'ici au Bourget historiquement c'est un lieu qui comporte beaucoup de l'histoire héroïque de l'aviation avec l'arrivée de Lindbergh évidemment avec le Costebellonte qui ont traversé l'Atlantique aussi, enfin il y a plein d'histoires magnifiques qui se sont passées ici au niveau des pionniers de l'aviation et donc nous on a fait cette immersion pendant quelques mois dans dans les archives photographiques. Et en effet, les conservateurs du musée nous ont ouvert les portes des ateliers, des réserves, et nous avons pu, comme ça, avec la volonté de choisir des objets qui nous touchent et qui nous parlent, pour en créer des œuvres, pour en faire des œuvres. Voilà.
Alors c'est vrai que dans un musée, c'est très vaste. Il y a énormément d'objets, énormément d'archives, hein, des centaines de milliers d'archives photographiques, justement. Et alors, c'est en allant investiguer au cœur de ces archives que vous avez découvert un roule-notes acquis d'ailleurs très récemment par le musée. C'est un roule-notes acquis en décembre dernier par le musée de l'air et de l'espace. Le roule-notes justement des aviateurs Coste et Bellonte qui ont donc traversé l'Atlantique sans escale dans le sens Paris-New York le 2 septembre 1930. Cet objet vous a particulièrement touché.
Oui, il nous a touché parce que c'était c'est un morceau de tissu de 4,50 m de long par 15 cm de large. Et en fait, Bellonte, qui était le copilote, écrivait sur ce roule-note toutes les informations techniques de la traversée. Et donc, ce roule-note n'a pas encore été étudié par les scientifiques, mais c'est très émouvant de voir que, en fait, finalement, il écrivait lui-même la boîte noire. C'est la première boîte noire, finalement, des vols, quoi. Et donc, ça nous a inspiré de créer nous-mêmes un immense roule-note qui fait 25 mètres de long sur un tissu où on a collé des photographies, à la fois des photographies d'archives et nos propres photographies de recherche. Et c'est donc un dialogue entre toutes ces images sur ce grand tissu qui se déploie dans tout l'espace de l'exposition et qui, par thème, vient donner des informations justement de notre recherche sur chacun des objets créés. Voilà.
Voilà, c'est-à-dire que grâce à ce roule-note, le visiteur va pouvoir cheminer dans l'exposition, vous avez parlé un petit peu de promenade impressionniste, c'est-à-dire qu'on a un mélange quand même dans cette exposition, justement de l'histoire de l'aviation, des archives que vous avez choisies pour être exposées, et de votre propre travail de création photographique à vous, Damien et Pascal Perry.
Oui, ce qu'on voulait essayer de restituer, c'est ce sentiment, enfin ces émotions et puis cette dimension du rêve de voler, en fait, voilà, c'était ce qui nous a un petit peu été notre fil rouge pour le travail. Et donc évidemment en revisitant Blériot, Clément Ader, ou ici au musée les archives ont tous les brevets de Clément Ader qui était inspiré par la nature et qui depuis son enfance et qui écrit dans ses brevets comment il a été inspiré par les coléoptères et les chauves-souris pour créer son éole, son premier avion. Voilà. Donc c'est assez émouvant de tomber sur ces archives, de questionner les archives et puis de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Hein, voilà.
Alors justement, en parlant d'archives, il y a une des installations qui montre des boîtes d'archives donc qui viennent du fond du musée. Comment vous avez mis en scène ces boîtes ?
Alors,
ce sont des boîtes hein, d'un petit format et ce sont des boîtes gigognes.
Oui, c'est ça. En fait, c'était les conservateurs avaient dû fabriquer ces boîtes pour conserver les plaques en verre, les plaques argentiques de format 13-18. Et en fait, elles avaient un peu des problèmes, ces boîtes. C'est qu'en fait, ils s'est rendu compte, à cause de la forme gigogne, que les plaques de verre pouvaient tomber par terre, malheureusement. Et donc, immédiatement, quand on nous a raconté cette histoire-là, on a demandé aux personnes de la documentation s'ils avaient dans les collections des plaques de verre brisées. Et voilà. Et donc, on en a retrouvé certaines, des très belles. Donc, c'est ce qu'on montre en fait dans des boîtes lumineuses. On a transformé les boîtes métalliques en boîtes lumineuses et on essaie de raconter comment la difficulté à conserver finalement. Parce que c'est vrai que ces photographies qui ont 100 ans, elles ont subi des dégâts, notamment aussi sans doute à cause de l'échange gazeux entre ces boîtes en zinc et les couches argentiques. Donc il y a des images on présente des images qui sont abîmées en partie, partiellement sur les couches argentiques. Voilà, et on présente aussi des images qui ont été retouchées par la main de l'homme, par les retoucheurs à l'époque qui détouraient à la gouache les personnages ou les avions pour la presse d'ailleurs en l'occurrence. Hein.
Oui, alors il faut préciser d'ailleurs que c'est aussi rappeler finalement le rôle des conservateurs de conserver toutes ces archives et notamment de conserver et de scanner 65 000 plaques argentiques qui appartiennent au musée de l'air et de l'espace. C'est énorme.
Oui, c'est énorme. C'est une campagne de 15 ans de numérisation de ces photographies. 15 000 sont déjà numérisées et donc voilà, nous on a pu faire notre recherche dans les 15 000 et c'est des photographies absolument magnifiques. En plus, on se rend compte que les photographes aussi à l'époque, ils étaient très brillants. Enfin, c'est cadré magnifiquement avec les techniques de l'époque. Enfin, c'est très émouvant. Hein. Même les portraits sont très très beaux. Enfin voilà. Donc nous, on a mis ça sous une installation avec 16 boîtes qui s'éclairent, qui s'allument. Et donc certaines sont fixes et puis d'autres, il y a des passages lumineux de lumière, un peu comme un scanner, pour évoquer cette grande campagne de numérisation. Et voilà. Et c'est un peu un hommage aussi aux conservateurs et toutes ces personnes qui sont dédiées à conserver ces fonds, qui sont voilà, ça questionne aussi cette dimension de la conservation des photographies. Hein.
Et puis là, on est aussi un petit peu au début de la photographie dans l'exposition. C'est ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes intéressé également aux premières photographies aériennes réalisées par Nadar, par exemple, et à travers une installation qui présente dans l'exposition un appareil photographique Gaumont qui était utilisé sur les avions de renseignement français pendant la Première Guerre mondiale. Et vous faites un écho aussi, voilà, à travers cette installation, donc aux photographies aériennes de guerre, mais aussi aux premières photographies aériennes réalisées par Nadar, justement.
C'est ça. Alors là, la photographie qu'on présente, c'est pas une photographie de Nadar, mais c'est une photographie qui a été photographiée par cet appareil photographique Gaumont. Et donc, on montre un bombardement pendant la guerre de 14-18. Et en fait, nous, l'intervention qu'on a fait là-dessus, c'est en fait, on a embouti, on a fait plusieurs traces, enfin, d'emboutissement de la tôle, enfin, de la photographie. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que finalement, cette image, elle était abstraite. Presque comme une image abstraite. On peut ressembler à un champ de poussière, à la lune, on ne sait pas trop. Et du coup, pour ramener à la réalité historique de la chose, le fait d'emboutir la tôle, hein, nous permettait de recréer des cratères et de signifier ou de faire ressentir l'émotion qu'on a eue à voir cette image aussi.
Alors Damien Perret, dans l'exposition avec Pascal Perret, vous avez choisi une jolie citation de Nadar. Je la cite. « La Terre se déroule en un immense tapis sans bord, sans commencement ni fin. » Vous, en tant que photographe, qu'est-ce que vous inspire cette phrase de Nadar ?
Ben, ça m'inspire d'abord le changement de regard qui a paru au moment justement de ces inventions concomitantes de la photographie et de l'aéronautique, enfin voilà, et des premiers vols, hein, où au moment où on commence à photographier, à voir le ciel, enfin la terre vue du ciel, et ben notre pensée change, nos regards changent, et du coup on devient un nouvel observateur du monde, quoi. Donc il y a ce changement de regard qui est très très important, à la fois pour les artistes de l'époque et à la fois pour je crois même la philosophie, quoi. Ça devient vraiment une nouvelle dimension, une nouvelle façon de voir le monde, quoi.
Parce que justement, en tant que photographe actuel, travailler sur des photographies anciennes, quel est le regard en fait que vous portez et qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à ces photographies anciennes pour les sublimer aujourd'hui ?
Oh, c'est une question pas facile. Hein. Bah, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les boîtes lumineuses, justement, de remettre en lumière, c'est-à-dire un peu de ressusciter, enfin, de réincarner, de renouveler en fait le regard sur ces images. Ou d'autres fois, on a créé des cinématographes avec trois photographies anciennes, dont une photographie de Gustave Eiffel dans sa soufflerie.
Oui.
On l'a fait voler ses cheveux, voilà. Donc c'est une photographie noir et blanc. Oui, il y a de l'humour, voilà.
C'est du détournement aussi.
Oui, c'est du détournement. Oui, voilà. Mais ça recrée de l'intérêt sur le sujet, évidemment. Oui. C'est ça qui, enfin aussi, c'est notre rôle d'artiste, je crois, dans la cité, dans la ville, dans la société, c'est aussi de recréer un nouveau regard sur les choses, quoi, voilà.
Alors, on arrive maintenant, puisqu'on chemine un petit peu avec vous, Damien Perret, depuis le début de cette interview, dans cette exposition que vous présentez au Musée de l'Art et de l'Espace. Alors, on arrive face à une boîte en bois, et à l'intérieur, on a un vestige, en fait. Alors, c'est un vestige assez particulier, assez inédit. C'est la première fois que le public va pouvoir voir à travers donc, cette boîte les vestiges de l'avion de Saint-Exupéry. Rien que ça.
Oui, alors, bah c'est.
Racontez-nous cette histoire parce que finalement c'est dans les archives depuis des années, ça n'a jamais été sorti.
Alors il y a eu une ou deux choses qui ont été sorties, mais c'est la première fois que cette pièce-là est montrée. Quand on a eu la chance de pouvoir aller un peu dans tous les lieux de conservation et les ateliers, etc., on est tombé sur des caisses en bois comme ça qui on a demandé ce qu'elles contenaient et on nous a dit c'est l'avion de Saint-Exupéry. Donc à ce moment-là, on a été très intéressés parce qu'on savait pas que ces choses-là existaient. Et en fait, c'est des vestiges de l'avion en effet. Donc on a réussi à sortir une caisse dans l'exposition et à la montrer dans sa caisse d'emballage, enfin de transport. Mm-hmm. Et donc c'est un morceau de l'avion de Saint-Exupéry qu'on présente en vis-à-vis avec...
C'est quel morceau exactement ?
C'est le berceau du turbo. C'est assez émouvant de voir que finalement les gens regardent, le public quand il sait ce que c'est, regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Mais les enfants aussi sont très passionnés de voir ce bout d'avion, vestige comme une relique quoi. Hein.
Et oui, c'est comme une relique. Il faut rappeler que Antoine de Saint-Exupéry était commandant. Et effectivement, son avion a été abattu en 1944 et retrouvé en 2001
au large de Marseille. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais.
Donc là, il y a évidemment l'histoire de Saint-Exupéry que tout le monde connaît. Et puis, vous, à travers un dispositif photographique, vous avez en quelque sorte fait revivre le fantôme de cet avion.
C'est ça. On a eu l'idée de faire des cyanotypes géants de la pièce. Donc en fait... un cyanotype, c'est un procédé photographique carrément très ancien, quoi, voilà. Et donc où on pose l'objet sur un papier qui a été traité avec le produit chimique, les deux produits chimiques, et en fait on révèle, on pose la pièce au soleil, et c'est le soleil qui va révéler, en fait, si vous voulez, la photographie. Donc là, on montre en fait, oui, en effet, cette pièce de ce vestige de Saint-Exupéry en photographie cyanotype. Voilà, c'est magnifique, c'est sur du tissu, mais voilà. Oui, c'est assez émouvant, en fait.
C'est très beau parce qu'il y a aussi ce bleu en fait qui rappelle, comme vous le disiez,
les fonds marins.
Les fonds marins, et donc ce bleu très tendre qui accueille effectivement la silhouette finalement. Une sorte de trace d'empreinte en fait,
c'est ça.
Qui est mise en photographie en fait à travers cette technique.
Oui, voilà.
Ouais.
C'est très beau, faut venir voir.
Voilà, exactement. Donc justement, il faut venir voir cette exposition Chantier photographique sur le territoire d'un rêve au musée de l'air et de l'espace. Merci beaucoup Damien Perret de nous avoir présenté cette exposition qui a lieu à l'occasion du mois de la photographie du Grand Paris jusqu'au 11 juin.
C'est ça.
Avec donc votre femme Pascale Perret. Couple d'artistes, les Époupées, hein, c'est votre nom d'artiste.
Ouais. Merci beaucoup, Julie.
Damien Perret. C'est vraiment une exposition que je vous invite à découvrir. Et comme vous avez pu l'entendre un petit peu en arrière du son de l'interview, eh bien, on a eu du passage, hein, du public et d'enfants. Donc c'est dire qu'il y a du monde,
il y a du monde
qui
aujourd'hui,
vient voir cette exposition. Ouais, merci beaucoup, Damien.
À son tour, Gilles Aubagnac, conservateur au Musée de l'Air et de l'Espace, me livre justement son regard de conservateur sur cette exposition, tout en revenant sur l'histoire du Musée de l'Air et de l'Espace et sur son actuelle rénovation, pour en faire un musée autant scientifique qu'un musée de société. Gilles Aubagnac.
Ce qui a été demandé aux artistes en relation avec les responsables des collections, le conservateur que je suis, c'est de faire ce lien entre les collections du musée et leur projet global. Chantier sur un territoire, le territoire de la Seine-Saint-Denis, c'est aussi la plateforme aéroportuaire du Bourget depuis quasiment 100 ans aujourd'hui. C'est toujours le premier aéroport d'affaires d'Europe, mais c'est aussi un musée. Et donc comment voit-il les collections et quels rapports ont-ils ? Alors par exemple, ils sont partis de montages de photos de la Première Guerre mondiale, où c'est le début de la photographie aérienne, ces montages et ces assemblages de photos qui montrent la ligne de front. Et ils sont intéressés aux archives Blériot, Mais plutôt que d'ouvrir des papiers d'archives dans des vitrines, eh bien, ils nous laissent rêver avec simplement les cartons d'archives. À travers des montages de photos, eh bien, ils racontent l'histoire, ce rapport entre hier et aujourd'hui, entre les collections du musée et la façon dont ils se l'approprient.
C'est aussi une manière de montrer la richesse des archives que vous conservez ici au Musée de l'Air et de l'Espace,
oui,
qui est peut-être pas très connue du grand public finalement.
Oui, effectivement, c'est une façon de montrer cette richesse, parce que le Musée de l'Air et de l'Espace, généralement, on le voit comme un musée d'avions. Et effectivement, il y a de l'ordre de 400 aéronefs à l'inventaire. Mais si on met bout à bout tous les inventaires, les maquettes, les jouets, les aéronefs, les uniformes, les photos, les livres, les cartes postales, on a de l'ordre de 600 000 items. Et c'est vrai que le grand public qui vient au Musée de l'Air et de l'Espace voit les avions sur une plateforme aéroportuaire et souvent perçoit mal le reste des collections. Et l'intérêt de cette exposition, à travers les époupées et leur réalisation esthétique, artistique, c'est de donner ce regard sur d'autres collections et de faire ces clins d'œil d'hier à aujourd'hui.
C'est dévoiler aussi les réserves.
C'est dévoiler les réserves, puisque justement, ils ont pu travailler dans les réserves, ce que ne peut pas faire le visiteur habituel.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un discours sur tout ce qui est aventure humaine de l'aviation, les pionniers de l'aviation, ce qui n'est pas forcément très visible juste dans le musée quand on regarde les avions. Là, on a vraiment un discours sur la mémoire, l'histoire de l'aviation à travers ces photographies.
Et effectivement, le musée de l'air et de l'espace est un musée technique, est un musée aéronautique, mais c'est aussi un musée d'histoire, c'est aussi un musée d'ethnographie, c'est aussi un musée de beaux-arts, c'est un musée d'aventure humaine. Le rêve de voler depuis Icare, eh bien, ça transparaît dans mille choses, j'allais presque dire dans les 600 000 objets que je donnais tout à l'heure. Et la vertu de cette exposition, c'est de donner ce regard croisé sur cette richesse, sur ce rêve, et en même temps de faire rêver aussi visiteur.
Alors là, en fait, on est dans un espace d'exposition qui est dédié normalement à la vue sur les avions qu'on a autour de nous.
Alors, cet espace d'exposition se trouve entre deux halls. Un qui est consacré à l'aviation militaire française des années 50 à la fin du XXe siècle, puisque c'était le siècle précédent. De l'autre côté, on domine toute la période des prototypes. Et là, on a des avions totalement uniques. Et on se retrouve ici, dans cet espace, entre ces deux visions. Et on a des photos d'avions avec en fond des avions. On n'est pas dans une exposition qui va délivrer un savoir. On est dans une exposition qui propose une émotion. Et effectivement, c'est assez loin de présentations technologiques telles que nous les avons souvent dans l'histoire de l'aéronautique.
Alors, Gilles Aubagnac, vous parlez d'émotion. Quelle est la pièce qui vous a le plus intéressé dans le choix des artistes Pascal et Damien Perret, qui vous a ému quand vous l'avez sorti des archives?
Ben c'est peut-être la pièce là qui est rentrée, la plus récente qui est rentrée dans la collection. Elle est rentrée il y a moins d'un mois. C'est un achat dans une vente sur le marché. C'est ce roule-note de Coste et Bellante, parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais celui-là, c'est celui de cette traversée. C'est celui aussi d'un avion que l'on présente, l'avion qui a fait cette traversée.
Alors, racontez-nous
que l'on présente dans les halls d'exposition. C'est l'avion qu'on appelle le point d'interrogation. Le point d'interrogation parce qu'il y avait un riche mécène qui a favorisé ces entreprises dans les années 30 où tous ces aventuriers ont traversé l'Atlantique, ont traversé l'Amérique, ont traversé, sont allés jusqu'en Chine. Et donc cet avion-là est un avion mythique qui a beaucoup marqué la période. On a fabriqué à cette époque-là aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des goodies. On a acheté il y a quelque temps chez un antiquaire une canne en forme de point d'interrogation parce qu'il s'en était vendu sur les Champs-Élysées lors d'une tournée triomphale de Coste et Bellante. Il y a des tapis tissés, il y a des cartes postales, il y a des montres, il y a des parapluies. Il y a eu même une chanson sur le point d'interrogation. Je recherche la partition originale d'ailleurs. Et donc ce rouleau était assez phénoménal, parce qu'en soi c'est un objet, c'est un morceau de toile très long avec des petites écritures, mais en même temps qui raconte toute cette traversée. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est de voir comment les artistes s'emparent de cela et font leur propre roule-note, qui lui déroule, non pas la traversée de l'Atlantique, mais déroule l'exposition, déroule leur regard sur les collections, et les font partager au public. Il y a là une photo qui pour moi est très très intéressante sur ce roule-note fait par les artistes. C'est une photo de Gustave Eiffel. Alors Gustave Eiffel, il est connu pour la Tour Eiffel,
bien sûr.
Il est connu pour des viaducs, pour des charpentes, pour tout un tas de choses. Mais il a aussi beaucoup travaillé pour la Tour Eiffel, parce qu'il y a des prises au vent. Il a travaillé sur l'aérodynamique des matériaux et il a construit la première soufflerie moderne, c'est-à-dire grâce à d'énormes ventilateurs envoyés, je vais faire simple, dans un tube, un grand souffle d'air à 100 km/h, et voir comment un objet qui se trouve là réagit par rapport au fluide. Et on voit cette photo de Gustave Eiffel devant, avec une maquette en main, devant la soufflerie, et à côté, notre spécialiste de la collection de maquettes, qui lui-même tient une maquette. Et par la fenêtre, on voit un jeune chantier jaune qui tout à fait marque le chantier, grand chantier actuel de rénovation, de restauration du musée, en particulier de la grand bâtiment construit par Labro en 1937, mais qui est aussi en relation avec cette idée de chantier d'exposition.
Alors justement, vous parliez de la rénovation du musée. Vous pouvez m'en dire un petit mot? Qu'est-ce qui se passe ici au musée de l'air et de l'espace?
Alors le musée de l'air et de l'espace est un très vieux musée, puisque sa date de création, la décision de la création, c'est le ministre de la Guerre en décembre 1918.
On sort à... Ça va faire 100 ans.
Ça va faire 100 ans, voilà. Donc, on sort à peine de la guerre. Quelques années avant, on a traversé la Manche, on a traversé la Méditerranée. Quelques années encore avant, c'était les vols de poules de Adair. Et la guerre est un accélérateur technologique. Et en 18, on a quelque chose de totalement nouveau. Et là, les militaires de l'époque se disent, mais il faut garder trace de ces choses-là. Il y a donc la décision de la création de ce musée, décembre 1918. Il est inauguré en 1921. Il est à Chalais-Meudon. Dans les années 30, il va à Ballard. Et ensuite, dans les années 60, 70, on se dit qu'il faut l'agrandir, qu'il faudrait faire autre chose. On imagine qu'il aille à Orsay, aujourd'hui le musée d'Orsay, parce que justement, cette ancienne gare avait tout à fait les volumes pour ça. On a envisagé de faire une cité de l'air à Ballard. Il y a eu un concours d'architectes. Et on a la maquette d'architecte. Le bâtiment est un genre de soucoupe volante. Ça se fait pas pour des raisons financières et de budget. C'est pas nouveau, les questions de budget. Et on arrive dans les années 70-80. Il y a Orly, qui est bien lancé, qui fonctionne. On a Roissy, qui démarre. Et à ce moment-là, l'aéroport international de Paris, le Bourget, eh bien, on se rend compte qu'il ne va plus être nécessaire à l'aviation commerciale. Il va rester ce qu'il est encore aujourd'hui, le premier aéroport d'affaires d'Europe, mais il y a là tout l'espace pour installer ses collections et ce musée au Bourget. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce musée de l'air et de l'espace, qui est très ancien, le plus vieux du monde, le seul au monde qui a les collections d'aéronautique, d'aviation et d'espace, eh bien, se situe en bordure de piste, et se situe sur un territoire lié à l'histoire de l'aéronautique, ce que rendent très bien toutes les photographies des époupées. Et donc, il y a entre autres un bâtiment construit par l'architecte Labro en 1937, qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et qui fait l'objet d'une restauration importante, qui réouvrira séquentiellement en 2018-2019-2020, et donc Le musée est engagé dans cette rénovation, mais est en même temps aussi engagé dans une conquête de nouveaux publics. Parce que souvent, il est vu comme un musée
d'avions et donc pour des fanas d'avions, mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, un musée d'histoire, un musée d'aventure humaine, et on le voit à travers les groupes scolaires là qui passent en ce moment dans le musée. Peut-être les auditeurs ont entendu les gamins crier parce qu'ils font toujours du bruit même dans les musées. Donc ce musée est à la fois, c'est une rénovation bâtimentaire, mais aussi dans sa façon de s'inscrire dans une offre culturelle et patrimoniale. Et cette exposition est un des éléments aussi de cette évolution.
Donc vous réfléchissez sur des présentations un peu différentes des collections.
Alors justement, dans ce que nous sommes en train de rénover, qui sera l'histoire de l'aérostation de la fin du XVIIIe siècle. 1783, c'est la première montgolfière qui monte dans les airs, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est de montrer aussi ces interactions avec la société civile, l'engouement pour l'avion dans les années, tout début des années 1900, mais aussi l'engouement pour le ballon dans les années 1850. Aujourd'hui, on peut voir à Paris, on peut monter dans une montgolfière, soit du côté de Javel. Bon, mais dans les années 1850, il y a la même chose. Et on le trouve à travers les affiches, on le trouve à travers les programmes. Donc, c'est des choses aussi que l'on veut montrer. Dans les collections liées à l'aérostation, à la fin du 18e, il y a une période qui dure même pas 10 ans, juste avant la Révolution, qu'on appelle la ballomania. Et on va avoir là aussi une floraison d'objets qui sont liés au ballon. Ça peut être de la vaisselle, des éventails, des montres, des ombrelles, des motifs sur des lits, des commodes, des chaises. On a même un bidet en faïence, et dans le fond duquel il y a un ballon, une montgolfière qui monte. Donc voilà, c'est cette notion de musée de société, et pas uniquement un musée de mécanique.
Et j'imagine que vous travaillez beaucoup avec les collectionneurs d'objets.
Ah ben oui, puisqu'il y a effectivement un travail sur... Qui a quoi? Donc il peut y avoir des achats dans des ventes publiques, il peut y avoir des achats dans des collectionneurs, il y a des dons aussi, il y a du mécénat. Donc c'est toute une politique générale que conduit le musée en ce moment dans ce domaine-là. Et l'exposition est un des éléments de cette politique générale.
Merci Gilles Aubagnac.
Surtout continuons de rêver, continuons de voler et d'aller plus haut. Continuons d'avoir ces rêves utopiques qui deviennent un jour réalité et constituent d'incroyables aventures humaines qui nous donnent des ailes. C'est pour cela qu'on aime aller au musée, pour comprendre mais aussi pour ressentir une émotion. Le musée de l'air et de l'espace est un fantastique territoire propice à l'imagination. Et l'exposition Latitude 48-93-33, chantier photographique sur le territoire d'un rêve, porte mieux que jamais son nom. Allez-y, elle est encore présentée jusqu'au 11 juin. Et surtout, n'oubliez pas de vous munir du petit guide de l'exposition, disponible à l'entrée, qui guidera vos pas.